Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir, nous revoici donc ce soir pour la fin du roman de Jean Giono, Regain. Panturle a les billets au bout des doigts. Il dit encore une fois « Tiens !» L'homme prend les deux billets. Il les compte 1, 2, bon. Il les garde un peu dans les mains. Si des fois il y avait encore à y revenir, non ? Il les met dans sa poche. Ça y est. « Mais tu vas me faire un papier, » dit Panturle. « Un papier ? Et de quoi ?» Ben, ça se fait pas pour cette chose. Ça se fait pour tout. Tu mets « reçu 60 francs » et puis tu signes. Pas plus, ça ira, on saura, toi et moi, ce que ça veut dire. Va. On a fait le reçu. Gédémus avait un crayon et il a déchiré une page de son carnet où il marque les comptes de chacun. « Mets un trait de sous 60, lui dit Panturle, pour que ça se voie bien, là. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-dessous ? Gédémus. C'est mon nom. Bon, ça va. Alors, attends, on va boire un coup. » Et ils ont trinqué avec du vin. « Maintenant je pars, dit Gédémus. Eh oui, dit Panturle. Il l'a accompagné jusqu'à la porte. Il ne pleut plus. Ça n'a pas été une grosse pluie. Il y a même du soleil au-dessus de la brume et l'herbe luit. Gédémus s'arrête sur le seuil. Tout ce que je viens de te dire de la femme, là, tu sais, eh bien, il n'y a rien de vrai. Je sais, dit Panturle. Il laisse la porte ouverte pour bien le regarder partir. Et voilà. Le silence revient. Une branche de tilleul s'égoutte dans un seau qu'on a laissé dehors. Panturle rentre doucement jusqu'à la table. Il replace la boîte de poivre sur la cheminée. Il faut mettre un manche à ce tournevis. Maintenant que le silence est là, on entend encore là-haut Arsule qui chantonne en rangeant l'armoire. Les labours d'automne ont commencé ce matin. Dès le premier tranchant de la rère, la terre s'est mise à fumer. C'était comme un feu qu'on découvrait là-dessous. Maintenant que voilà déjà six longs sillons alignés côte à côte, il y a au-dessus du champ une vapeur comme d'un brasier d'herbe. C'est monté dans le jour clair et ça s'est mis à luire dans le soleil comme une colonne de neige. Et ça a dit aux grands corbeaux qui dormaient en volant sur le vent du plateau, « C'est là qu'on laboure, il y a de la vermine !» Alors ils sont tous venus, d'abord l'un après l'autre, en s'appelant à pleine gorge, puis par paquets, comme de grandes feuilles emportées par le vent. Ils sont là, autour de Panturle, à flotter dans l'air épais comme des débris de bois autour d'une barque. Ça pouvait être dans les 11 heures du matin quand Panturle s'est arrêté pour raccommoder la longe qui venait de casser. Et juste au moment où il levait la tête, ayant fini à travers le soleil, maintenant chaud, il a vu un homme debout sur le champ de Marius Aubergier. Du coup, il en a laissé retomber la courroie. Qu'est-ce que ça peut être, celui-là ? Ursule est seule à la maison. Il a pesé sur le pieu du frein et il a cloué comme ça l'arrière bien profond dans la terre. Il a donc amarré la charrue bien solide là, au bout du champ, à telle force que le cheval pouvait faire la fantaisie sans rien risquer. Et il allait rentrer à la maison quand il a vu l'homme descendre vers lui. Alors il l'a attendu. Mais il a laissé l'attelage à l'ancre parce qu'on peut avoir besoin de ses mains libres, on ne sait jamais. L'homme est venu tout droit. Il avait une petite casquette, le velours de ses pantalons était presque neuf. On l'entendait crier de loin. Arrivé auprès du sillon, il se penche et il prend un peu de terre dans ses doigts. Il la regarde, il la sent, il la tripote dans ses doigts à la faire couler, puis il regarde la graisse rousse qui reste après la peau, puis il essuie ses doigts après son pantalon, puis il vient. Alors qu'il dit « Ça se fait bien ?»« Pas mal, » répond Panturle. De près, c'est un homme un peu plus petit que Panturle, mais tout râblé, avec de bons angles, des épaules en devant de brouette et de bonnes mains. « C'est de la riche terre, ça, tu sais. »« Pas mauvaise, » dit Panturle. « Je te dis ça, continue l'homme, parce que je vais être ton voisin, oui. » C'est pas toi qui as vendu de si beaux blés à la foire de Bannon, si ? Eh bien, c'est toi qui l'as décidé, donc. Il y a bien longtemps que la femme me dit « Mettons-nous sur notre terre. Désiré, on sera nos maîtres. » Il y a longtemps qu'elle le dit, mais on n'a jamais pu le faire. La bourse n'est pas grosse. Et la terre, tu sais, en pleine, ceux qui l'ont la tiennent à pleines dents. Moi, je suis fermier du côté de Manne. Et au fond, cette chanson de la femme, ça me travaille en dedans aussi depuis beau temps. Alors, ça s'est tout fait comme arrangé d'avance. Panturle lui a dit, « Tu vas venir manger un morceau, mais laisse-moi encore faire trois raies. » Et l'homme a marché à côté de la charrue pendant que Panturle finissait. À tout moment, il se baissait sur la terre, il en prenait des poignées et en tâtait la graisse. En entrant à la maison, l'homme a eu un regard heureux pour chaque chose. Il y avait un beau jour gris, doux comme un pelage de chat. Il coulait par la fenêtre et par la porte, et il baignait tout dans sa douceur. Le feu dans l'âtre soufflait et usait ses griffes rouges contre le chaudron de la soupe, et la soupe mitonnait en gémissant, et c'était une épaisse odeur de poireaux, de carottes et de pommes de terre bouillies qui emplissait la cuisine. On mangeait déjà les légumes dans cet air-là. Il y avait sur la table de la cuisine trois beaux oignons tout pelés qui luisaient violets et blancs dans une assiette. Il y avait un pot à eau, un pot d'eau claire, et le blond soleil tout pâle qui y jouait. Les dalles étaient propres et lavées, et près de l'évier, dans une grosse raie qui avait fondu les pierres et d'où on avait jour sur la terre noire, une herbe verdette avait monté qui portait sa grosse tête de graine. Ursule la laisse là pour le plaisir, elle l'appelle Catherine et elle lui parle en lavant les assiettes. L'homme a tout regardé en prenant son temps. Un temps pour chaque chose. Pesé, il se fait une idée. Et quand il se l'est faite, il dit « Vous êtes bien là ?» Et cette idée, si des fois elle n'avait pas été bien finie, elle s'est finie avec la bonne soupe d'Ursule, une plaine écuellée que les bords en étaient baveux, puis encore une avec tous les légumes entiers, avec les poireaux blancs comme des poissons et des pommes de terre fondantes et les carottes et tout le goût que ça laisse dans la bouche. Il y a eu une grande taillade de jambon maigre avec un liseré de gras qui miroite comme de la glace de fontaine. Puis il y a eu le fromage jauni entre les feuilles de noyer et parfumé aux petites herbes. Et l'homme a mâché plus lentement alors. D'abord parce qu'il commençait à avoir le ventre plein et puis parce qu'avec sa bouche, il lui semblait qu'il pétrissait de la langue un morceau de la colline même avec toutes ses fleurs. Alors la pensée a été finie en plein, et il a encore dit Ah, vous êtes bien ici, vous êtes bien. Puis, ça, c'est la vie. Puis, quelle bonne ménagère. Puis, on sera voisins, de bons voisins, des choses comme il n'y a plus qu'ici. Je te prêterai mon mulet. J'ai un semoir américain et puis tu verras, va. Alors il est venu l'heure de se séparer parce que depuis un moment l'homme ne dit plus rien, tout saoulé de bonnes soupes en dedans et tout saoulé de bonnes images en dehors. Et Panturle s'est remis à penser à son travail. Alors il est venu le moment de partir. L'homme a serré la main de Panturle. Il a serré le petit doigt d'Arsule qui avait les mains mouillées, déjà attelées à son lavage, et il leur a dit en s'en allant « Ah, dans 3 jours, vous verrez toute la famille. La femme qui est bonne, elle aussi, puis les galopins, vous verrez. J'ai un garçon et 2 petites filles. » Il a donc fallu installer tout ce monde. Ça a été une belle fête. Il était peut-être dans les 4 heures du matin en pleine nuit, quoi. Quand ils sont arrivés, on dormait dans la maison. Ça a été d'abord des « Oh ! L'homme !» qui ont dû durer pas mal de temps parce qu'on dormait comme des sourds. Puis ils ont tapé contre la porte et Panturle s'est levé. On les a fait entrer dans la cuisine. Le feu a été vite allumé. Arsule est descendu avec un jupon seulement sur sa chemise et toute fleurie de ses seins gras. Puis devant le monde, elle s'est couverte. La femme de Désiré, c'est Delphine qu'elle s'appelle. C'est une petite femme replète, toute bien charnue par devant et par derrière. Elle a un cou épais qui semble fait en graisse de porc, 2 petits yeux bien aigus et une bonne bouche de fruits. « Oui, madame, » lui a dit Arsule. Delphine est allée par 3 fois à la carriole, et chaque fois, elle est revenue avec les bras pleins d'un enfant endormi. Ça a d'abord été la plus petite, Madeleine, avec la figure comme gonflée de bon sommeil et tout à fait comme une rose ouverte. Puis la sœur Pascaline et sa tête se balançant en arrière comme une courge au bout de sa tige. Puis le petit Joseph et celui-là, il a été presque sur le point de se réveiller. Il a ouvert la bouche et il a dit « Allez, hue le bestiau !» Mais c'était dans son rêve. On les a couchés sur des sacs, on a fait du vin chaud, l'aube est venue et le jour. De ce temps, Désiré avait dételé le mulet et l'avait mis à l'abri, à côté de Caroline, dans l'étable. Le mieux à faire, a dit Panturle, c'est de laisser les bourgeoises là et d'aller nous deux, après on reviendra les prendre. C'est comme ça qu'ils ont fait. Et Arsule et Delphine ont lié connaissance en plein à leur façon, à la façon des femmes, en parlant de cette chose, puis de celle-là, du jupon, du confit d'olive, de ce que ça coûte les souliers, de la peine qu'on a, qu'on ne doit pas trop se plaindre. Et ça a bien marché.
Que je sois né d'hier ou d'avant le déluge, j'ai souvent l'impression de tout recommencer. Que j'ai pris ma revanche ou bien trouvé refuge dans mes chansons, toujours j'ai voulu exister. Que vous sachiez de moi ce que j'en veux bien dire, que vous soyez fidèle ou bien simple passant, et que nous en soyons juste au premier sourire. Sachez ce qui pour moi est le plus important, oui le plus important. Pas mourir, écrire sagesse ou délire, écrire pour tenter de dire, dire tout ce qui m'a blessé, dire tout ce qui m'a sauvé, écrire et me débarrasser, écrire pour ne pas sombrer, écrire au lieu de tournoyer, écrire et ne jamais pleurer, rien que des larmes de stylo qui viennent se changer en mots pour me tenir le cœur. Bien quelques décades, je ne supporte pas de voir le temps passer. On arpente sa vie au pas de promenade et puis on s'aperçoit qu'il faudra se presser. Que vous soyez tranquille ou plein d'inquiétude, ce que je vais vous dire, vous le comprendrez. En mettant bout à bout toutes nos solitudes, on pourrait se sentir un peu moins effrayé, un peu moins effrayé. Écrire pour ne pas mourir, écrire tendresse ou plaisir, écrire pour tenter de dire, dire tout ce que j'ai compris, dire l'amour et le mépris, écrire me sauver de l'oubli. Écrire pour tout raconter, écrire au lieu de regretter, écrire et ne rien oublier, et même inventer quelques rêves de ce qui empêche qu'on crève quand l'écriture un jour s'achève. Qu'on m'écoute en passant d'une oreille distraite, ou qu'on ait l'impression de trop me ressembler, je voudrais que ces mots qui me sont une fête, on ne se dépêche pas d'aller les oublier. Que vous soyez critique ou plein de bienveillance, je ne recherche pas toujours ce qui vous plaît. Quand je soigne mes mots, c'est à moi que je pense. Je veux me regarder sans honte et sans regret, sans honte et sans regret. Pas mourir, écrire grimace et sourire, écrire et ne pas me dédire, dire ce que je n'ai su faire, dire pour ne pas me défaire, écrire habiller ma colère, écrire pour être égoïste, écrire ce qui me résiste, écrire et ne pas vivre triste et me dissoudre dans les mots, qu'ils soient ma joie et mon repos, écrire et pas me foutre à l'eau. Et me dissoudre dans les mots, qu'ils soient ma joie et mon repos. Écrire et pas me foutre à l'eau. Écrire pour ne pas mourir, pour ne pas mourir.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Retour à la fin du roman de Jean Giono, Regain. L'air est bien aiguisé et bien net, mais le soleil est encore chaud et il n'y a pas de nuages. C'est le plus beau jour de cette fin d'automne. On entend le vol des griffes dans les genévriers. Un lièvre roux s'arrête tout étonné au milieu de la garrigue, puis part d'un grand bond tendu à ras de terre. Des corbeaux s'appellent. On les cherche, on ne les voit pas. On dirait que c'est la grande faïence bleue du ciel qui craque. Dans les haies sans feuilles, il y a les fruits de l'églantier que la gelée des nuits a touchés et qui sont mous et doux. La petite Madeleine a dit à Arsul qu'Aman, on appelait ça des gratte-culs. Elles ont ri toutes les trois. Et Arsul a dit « Attends que je te les gratte, moi. Attends, va !» Elles sont allées près du ruisseau. Il était tout emmoustaché d'herbes sales et grognons parce que les pluies lui ont donné pas mal d'eau. Alors il se plaint. Il se plaint de graisse. Il n'est jamais content. L'été, il est là à gémir qu'il va mourir. Et puis, c'est toujours comme ça, les ruisseaux. Ainsi les petites ont commencé leur amitié avec cette nouvelle terre. Il y a un courlis qui appelle dans les taillis. Elles ont su que quand on allait vers Basseland, il faut serrer le fichu, autrement l'humide vous prend. Elles ont su que quand on va vers le plateau, ce bruit qu'on entend, c'est le vent. Il ne faut pas avoir peur. Puis Arsul les a tant caressées. Le soir est venu, et on a entendu appeler « Pascaline !» On est revenu vers le village. Delphine a déjà fait son nid. La maison où elle s'est installée est juste devant les champs en pente. En montant, on voit le feu de la lampe. « Alors, vous ne voulez pas manger avec nous ce soir ?»« Ah, dit Delphine, que voulez-vous ? Il faut s'accoutumer. » si nous commençons de ce soir à faire compagnie, il ne nous restera rien pour l'éveiller de cet hiver. Non, la maison est prête, on va y rester. Il y a du feu dans l'âtre et des flammes de plus d'un mètre, et ça fait un beau bruit doux au cœur. C'est déjà tout bien avenant, balayé et rangé. Il y a peu, mais c'est bien placé. Et le long du mur, l'ombre fait meuble. Bonsoir, font les petits en tendant les joues. Arsule descend toute seule. Là-haut, les petits parlent. On dirait un nid de pie. C'est moi, dit Arsule en arrivant. Panturle a fait la soupe. Et où tu vas maintenant ? Voir la chèvre, dit Arsule. Elle a cherché sous le ventre de Caroline et là, dans le poil chaud, elle a tâté. Et elle a pris un petit chevreau. Elle s'est assise dans la paille à côté de la mère chèvre. Elle a mis le petit chevreau sur ses genoux, elle le caresse. Cette promenade, ça lui a donné un grand appétit de caresse d'enfant. Il est revenu, le grand printemps. Le sud s'est ouvert comme une bouche. Ça a soufflé une longue haleine, humide et tiède, et les fleurs ont tressailli dans les graines, et la terre toute ronde s'est mise à mûrir comme un fruit. L'escadre des nuages a largué les amarres. Ça a fait un grand et long charroi de nues qui montait vers le nord. Ça a duré. À mesure, on sentait la terre qui se gonflait de toutes ses pluies et de la vie réveillée de l'herbe. Enfin, une belle fois, on a vu bouillonner le ciel libre sous la poupe du dernier nuage. Il est resté pourtant une balayure de ciel, et elle flotte, accrochée au clocher d'Aubignan, comme un linge autour d'une pierre dans un ruisseau. On est là. On n'ose pas encore commencer la peine de printemps, prendre la bêche ou le sac aux semences, commencer, on n'ose pas. Il peut pleuvoir encore d'un moment à l'autre. On est directement sous le halètement du grand nuage, et le jeune jour blond est encore tout tremblant d'éclairs. Ça, tant qu'il ne sera pas venu, le vent. Panturle est assis près du rocher sous le cyprès. Il a posé ses mains inutiles sur les genoux, il fume. Il regarde sa fumée. Elle se déploie hors de sa pipe comme une chose vivante. Elle a du corps. C'est que l'air est encore calme. Le vent n'est pas venu. Il écoute. Non, le vent n'est pas venu. On n'entend pas son pas dans le ciel, mais le sud est tout propre et ça ne tardera pas. Peut-être ce soir, peut-être demain. C'était comme ça le soir de la mamèche. Et depuis, si elle voyait ça. Elle le voit où il n'y a pas de justice. Désiré a repeint ses volets. Il a mis une porte neuve à sa grange. On entend Delphine qui appelle ses petites. Et puis, une des voix d'enfants dans les haies. Les deux maisons ont les velours de labour devant leurs portes, comme des tapis. Panturle est à la réflexion. C'est un jour clair, on voit bien les choses. Ça arrive net et propre devant ses yeux, et l'on voit bien le pourquoi et les comment. Il voit l'ordre. Et c'est tout clair qu'il faut vider les ordures de l'autre côté du lilas. Et c'est tout clair que si on ne vidait pas les ordures de l'autre côté du lilas, mais si on les vidait par exemple là ou là, à côté du petit cerisier, ça donnerait des mouches, et puis ça sentirait mauvais, et puis ça ne serait plus de l'ordre. Il comprend. Il est bon d'avoir damé une aire et d'avoir scellé un essieu au vieux rouleau. Il est bon d'avoir sur la cheminée une petite boîte, même si sur la petite boîte il y a marqué poivre. Et il est bon d'avoir cette boîte toute prête, pour le cas où on aurait l'occasion d'un bon mulet, ça peut arriver. Il faudra voir. On ne peut pas toujours vivre d'emprunt. Dans le chemin qui descend, il y a Arsule. Et ses galoches, on les entend toutes les deux. Arsule chante, la voilà qui tourne la haie. Elle vient, elle traîne un peu les pieds, elle bouge un peu les épaules en marchant, comme s'il fallait aider les jambes avec toutes les forces du corps. Elle s'est alourdie, elle s'est alentie. Elle joue avec une branche d'aubépine. Il la regarde venir, elle va sur l'herbe neuve en choisissant des places où il n'y a pas encore de pâquerettes. La voilà. « Et tu es là au mourant du soleil ?» Ah, il lui dit, « Je pense. » Il la voit avec des yeux tout neufs. Il la voit dans son ampleur et son aplomb. Il étend son bras. « Arrête-toi, attends un peu, fille. » Puis, « Approche-toi, fais-toi voir. » Elle vient contre lui. Il la saisit par ses hanches courbes. Elle est comme une jarre entre ses mains. On dirait, « Tu n'étais pas si grosse ?» Il tient dans ses mains toute la rondeur de la jarre de lait. Il interroge comme ça de bas en haut. Elle a baissé son visage plein d'un contentement comme le ciel. « Ouais, elle dit, maintenant tu sais. » « C'est sûr ?» Franc comme l'or, et déjà vivant. Et l'autre nuit, j'ai senti un coup de son pied. Là, elle tâte son flanc. Tu m'as dit, qu'est-ce que tu as ? Je t'ai dit, rien. Il se dresse. Il a mis son bras sur l'épaule de la femme. Voilà. Elle a encore sur ses épaules ce bras nu qui est comme un poids d'eau. Fille. C'est tant de choses qu'il y a à dire que mieux vaut dire fille. Puis rester là. Et tout ce qui est encore à dire, on le laisse dans le chaud du cœur où c'est sa place. Elle souffle encore le long de lui. J'y pense et j'en ai des chatouilles dans les mains et sur la bouche et je languis de l'avoir dans mes doigts et de le baiser sur mon partout où je pourrais de tous les côtés. Elle dit encore au bout d'un moment, je serai bonne nourrice. Je sens mes seins qui germent, puis... Ça me laisse parfois là desséchée comme une écorce. Ils sont restés longtemps muets à respirer l'un contre l'autre. Et c'est encore elle qui a dit, comme à la suite d'un rêve qu'elle faisait, « Nous serons dans l'herbe, lui et moi, et je ferai gicler mon lait dans l'herbe pour le faire rire. » Un appel descend du village. « Pascaline !» Delphine cherche ses fillettes. « Moi aussi, » dit seulement Arsule. Maintenant, Panturle est seul. Il a dit, « Fille, soigne-toi bien, va doucement. J'irai te chercher de l'eau le soir maintenant. On a bien du contentement ensemble. Ne gâtons pas le fruit. » Puis il a commencé à faire ses grands pas de montagnard. Il marche. Il est tout embaumé de sa joie. Il a des chansons qui sont là, entassées dans sa gorge, à presser ses dents, et il serre les lèvres. C'est une joie dont il veut mâcher toute l'odeur et saliver longtemps le jus comme un mouton qui mange la saladelle du soir sur les collines. Il va comme ça jusqu'au moment où le beau silence s'est épaissi en lui et autour de lui comme un pré. Il est devant ses champs. Il s'est arrêté devant eux. Il se baisse. Il prend une poignée de cette terre grasse, pleine d'air et qui porte la graine. C'est une terre de beaucoup de bonne volonté. Il en tâte entre ses doigts toute la bonne volonté. Alors, tout d'un coup, là, debout, il a appris la grande victoire. Il lui a passé devant les yeux l'image de la terre ancienne, renfrognée et poilue, avec ses aigres genêts et ses herbes en couteau. Il a connu d'un coup cette lande terrible qu'il était, lui, large ouvert aux grands vents enragés, à toutes ces choses qu'on ne peut pas combattre sans l'aide de la vie. Il est debout devant ses champs. Il a ses grands pantalons de velours brun à côtes. Il semble vêtu avec un morceau de ses labours. Les bras le long du corps, il ne bouge pas. Il a gagné. C'est fini. Il est solidement enfoncé dans la terre, comme une colonne. Voilà, nous avons terminé donc ce soir ce roman de Jean Giono, Regain. Et nous nous retrouverons plus tard pour d'autres lectures. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.